oserais-je dire qu'il fut mon préféré. Un homme politique, certes, mais aussi un complice attentif. Je lui avais demandé « Quels sont les trois meilleurs champions de la politique française ?» Réponse immédiate « Laissez-moi 10 secondes, je cherche les deux autres. » Au grand échiquier, je m'étais autorisé à lui faire chanter un refrain de sa composition. Edgar Faure, c'était le talent et l'humour, en 1971.
Infatigable et multiforme, historien, juriste, universitaire, auteur de romans policiers, tribun bien sûr, vous êtes, monsieur le Président, l'homme de toutes les performances et vous vous trouvez merveilleusement à l'aise dans cet univers foriste, je crois que le mot ne vous fait pas plaisir, mais il faut l'employer, un univers que vous avez su construire vous-même. Je ne sais pas ce que vous êtes le plus, ingénieux, brillant, subtil. Vous poussez le raffinement jusque dans les formules. On vous dit le seul dépositaire authentique de la pensée du général de Gaulle, mais j'aimerais personnellement mieux connaître la pensée d'Edgar Faure. L'homme vaut mieux encore que l'homme politique. Vous vous définissez comme un gaulliste intellectuel, un gauchiste philosophique. Plus simplement, qui êtes-vous, Edgar Faure ?
C'est une question très embarrassante, j'aimerais mieux que vous la cerniez par d'autres précisions. Vous dites notamment que je suis un dépositaire de la pensée du général de Gaulle. Je ne prétends pas du tout à l'exclusivité. Cette pensée appartient au public, elle appartient à l'humanité. J'ai trouvé dans la pensée du général de Gaulle des points, des lignes qui m'ont enthousiasmé, qui ont correspondu à ce que je cherchais, à ce que je préparais, et c'est pour cela que je peux me dire gaulliste. Ce n'était pas une manifestation de dévouement inconditionnel à une personne. C'était une adhésion intellectuelle à une philosophie au moment où elle se formait elle-même.
Edgar Faure, vous êtes né à Béziers le 18 août 1918.
Non, hélas, 1908. Enfin, il faut dire la vérité, n'est-ce
ah
pas?
Ah bon, parce que la biographie indique 18.
Ça ne se voit pas, là. C'est une bonne biographie. Mais...
Ville de garnison, vous les connaissez bien, puisque votre père était médecin militaire.
Oui.
Est-ce que votre père a assisté à tous vos triomphes?
En grande partie, il a assisté, en effet, au plus grand déroulement de ma carrière, car j'ai eu la joie de le garder jusqu'à ce qu'il atteignît l'âge de 91 ans. Et il est mort en 1963.
Quel enfant étiez-vous, Edgar Faure?
Eh bien, j'étais un enfant moyen, je veux dire que j'étais un peu turbulent, mais sans excès. J'étais bon élève, mais cependant, je n'étais pas le premier partout et dans tout, ce qu'on appelle le fort tentait, mais j'ai bénéficié d'une vie familiale très solide, très affectueuse.
Chahuteur ?
Moyennement, oui, un peu quand même, un peu, il faut le dire. J'étais parmi les bons élèves chahuteurs. En général, c'était les mauvais élèves qui chahutaient, mais je faisais le pont entre les bons élèves qui ne chahutent pas et je chahutais, et les mauvais élèves qui chahutaient mais qui n'étaient pas bons élèves et j'étais bon élève. Voilà,
si vous aviez aujourd'hui 20 ans, est-ce que vous seriez contestataire? Est-ce que vous seriez à Nanterre une tête qui agit?
Je pense qu'en effet, je ne serais pas satisfait de la situation actuelle et que par conséquent, je serais porté à la contester. Peut-être avec plus de vigueur que je ne fais aujourd'hui comme homme politique, puisque j'ai acquis une expérience et des thèmes de référence qui me manqueraient si j'avais 20 ans. Mais je pense que je cherchais toujours une signification. Donc je ne serais pas un contestataire total et par principe. Je chercherais à avoir une issue, une conclusion positive. La contestation est un acte négatif, ce qui n'est pas une condamnation. L'acte négatif, philosophiquement, est un acte créateur. La création commence par une négation, mais ne doit pas s'y tenir. Et ensuite, par une négation de la négation, elle doit arriver à une conclusion positive. Je crois tout de même, vraiment du fond du cœur, que j'aurais joué totalement la carte de la participation, si j'avais été de ce côté-là. Si, alors que, si j'étais étudiant, par hypothèse, et qu'un ministre, comme je l'ai été, offre aux étudiants la possibilité de participer, au lieu de dire « je n'en veux pas » ou « c'est une dérision » ou « on se fout de moi », j'aurais dit « tentons, faisons l'expérience ». Donc j'aurais été un contestataire participateur.
Edgar Faure, vous avez beaucoup de diplômes.
C'est une conquête des diplômes. J'en ai quelques-uns, mais d'autre part, il y a un point auquel je tiens à faire mention ici. C'est que mes diplômes, je les ai acquis d'une façon assez successive. Et je pense d'ailleurs que c'est une mauvaise chose que d'isoler un étudiant pendant toute la période vraiment de formation de la personnalité, la période la plus brillante que l'on peut avoir, jusqu'à 25, 26 ou 27 ans, à ne faire que des études. De sorte que j'ai passé très tôt ma licence en droit, je dois dire sans difficulté, mais c'est par la suite, alors j'étais déjà engagé dans la vie positive, j'étais avocat, que j'ai passé mes diplômes de doctorat, puis ma thèse de doctorat, puis le diplôme de langues orientales, et bien plus tard l'agrégation des facultés de droit. Je pense qu'il faut imbriquer la vie et l'étude.
Mais cette agrégation des facultés de droit, c'était quand même quelque chose venu sur le tard et d'assez exceptionnel.
Oui, je l'ai passé très tard, mais j'ai eu la chance de pouvoir réaliser très tard quelque chose qui avait été un peu la vocation de ma jeunesse. Et ce n'est qu'après, après avoir été député, ministre, président du Conseil, ayant un certain creux dans ma vie, que j'ai eu cette ambition de couronner un peu cette vocation de jeunesse et en même temps de me plier de nouveau à une discipline. Parce que c'est très utile quand on a occupé des postes de commandement de nouveau de se discipliner et d'apprendre et de savoir accepter l'autorité. Non pas une autorité imposée, mais une autorité consentie.
Edgar Faure, vous êtes marié très jeune.
Oui.
Il faut se marier jeune.
Je crois, à condition naturellement qu'on rencontre la personne avec qui on doit se marier. Je dois dire que si j'avais eu le choix entre me marier très jeune avec la femme que j'ai choisie ou ne pas la rencontrer et la rencontrer plus tard, j'aurais préféré alors me marier plus tard. Mais si vous rencontrez vraiment ce qui vous convient, alors vous devez le faire. Vous ne devez pas hésiter devant les responsabilités. Il faut alors se marier. Je suis très partisan du mariage, d'une façon générale, et notamment du mariage très jeune. Parce que c'est une chose merveilleuse que de passer la plus grande partie de sa vie avec la même personne. On n'est pas obligé de l'expliquer, on se comprend à demi-mot, on a vécu les mêmes épreuves, les mêmes joies. Et c'est une chance extraordinaire que j'ai eue pour ma part.
Vous considérez comme un excellent époux ?
Non, certainement pas. Je ne serais pas un bon époux si j'étais un excellent époux.
Vous avez deux filles, Edgar Faure.
Oui, oui.
Toutes les deux mariées.
Oui.
Et vous êtes à ce stade-là un père exemplaire, sans doute.
Oh, n'exagérons rien. Vous savez, on a toujours discuté mes qualités à ce sujet. Je n'ai peut-être pas été un père très attentif parce que j'étais très occupé par beaucoup d'autres choses. Mais j'ai toujours eu avec mes filles et j'ai toujours... Ce qui est, je crois, évidemment essentiel, c'est une communauté intellectuelle. C'est, si je peux dire, un avantage. Mes filles ont à peu près les mêmes goûts, les mêmes penchants, les mêmes soucis que moi. Elles me considèrent souvent comme étant un peu dépassée. Ce qui m'a amusé un jour, ma plus jeune fille, Agnès, qui prépare l'agrégation de philosophie en ce moment, me considérait comme un être assez médiocre au point de vue philosophique. Mais un jour, en rentrant assez tard, je vois de la lumière dans mon secrétariat, minuit, minuit et demi. Je trouve ma fille Agnès, je lui dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle me dit « Papa, je cherche ton cours. » Elle cherchait une idée dans mon cours sur Hegel. Alors ça m'a donné une certaine satisfaction d'amour propre.
Et votre fille, que pensait-elle du ministre de l'Éducation nationale que vous étiez ?
Eh bien, ma fille aînée a joué le jeu avec moi et les médecins et les psychiatres. Et d'ailleurs, elle était à ce moment-là au cabinet de mon ami Maurice Schumann. Elle est restée au cabinet de Boulin. Elle est très passionnée par son métier. Notamment, elle voit la médecine surtout dans son aspect social, dans son aspect humain. Et à ce point de vue, elle m'a aidé, soutenu et souvent informé sur beaucoup de problèmes d'enseignement médical. Ma plus jeune fille, c'est un peu différent. Elle est encore au stade de la philosophie pure, de la métaphysique. Mais je n'ai pas eu avec elle d'antagonisme.
Edgar Forrest, pour Lucie Faure, votre femme, qui est d'ailleurs un excellent écrivain, et pour vos filles, que vous voulez toujours aller plus loin, faire toujours plus et faire mieux.
Je crois que c'est vrai que c'est dans mon tempérament. Naturellement, peut-être plus ou moins aidé et soutenu par le milieu familial. Alors, certains hommes y trouvent un encouragement. Ce fut mon cas. On peut y trouver un découragement. Mais on pourrait également trouver une stimulation par contradiction.
Vous avez eu votre compte de portefeuille ministériel. Vous avez été président du Conseil des ministres. Il ne vous reste plus qu'à occuper l'Élysée.
Mais je n'ai pas cette ambition.
Vous avez une vie politique bien remplie.
Oui, je ne me plains pas à ce point de vue. J'ai été appelé à des fonctions très importantes et souvent sans les avoir, si je puis dire, recherchées. Si étrange que cela puisse paraître. La première fois que j'ai été appelé à la présidence du Conseil, je n'avais que 43 ans, eh bien franchement, M. Chancel, je ne m'y attendais pas. J'hésitais même, je me demandais si j'avais une maturité suffisante. Enfin, quand le président Auriol m'a appelé, dans une crise difficile, je me suis lancé. Mais je n'avais pas conçu d'être président du Conseil à ce moment-là. Par la suite, quand le général de Gaulle m'a appelé en 1962 une première fois, m'a proposé de participer au gouvernement, de prendre une gestion qui, normalement, m'aurait beaucoup intéressé dès ce moment-là, puisqu'il m'avait proposé un grand ministère avec l'éducation nationale et la recherche scientifique, j'ai refusé. J'ai refusé, au fond, pour une raison un peu circonstancielle, et qui était en même temps une raison morale. Comme j'appartenais au Parti radical, qui ne soutenait pas le gouvernement du général de Gaulle pour des raisons de politique intérieure, j'hésite. Et j'ai eu peur que si j'acceptais un ministère du général, les positions que j'avais prise pour le soutenir, j'avais prise loyalement, du fond de ma conscience, notamment dans la décolonisation, dans l'affaire d'Algérie, que ces positions ne fussent compromises et que le public ne se dise « Ah ben au fond, les positions d'Edgar Faure s'expliquaient par un souci de carrière, qu'on me prenne pour un carriériste ». Finalement, je ne sais pas si ce scrupule avait de la valeur. Parce que 15 jours après que j'ai refusé ce ministère, néanmoins, les gens continuaient d'interpréter mes attitudes par une ambition ministérielle que pourtant j'avais récusée. Aussi, quand le général de Gaulle m'a appelé de nouveau après sa réélection en 65, qui m'a appelé au début de 66 entre gouvernement, alors j'ai accepté. Et cette fois, j'ai pris, comme vous le savez, le ministère d'Agriculture.
Edgar Faure, dans les coulisses de la politique, on dit beaucoup de choses. Et on dit encore aujourd'hui, ce sera bientôt la grande rentrée d'Edgar Faure. Si vous étiez appelé au gouvernement, vous diriez non ?
Oui, pour rentrer, il faut d'abord être sorti, n'est-ce pas ? Alors je considère que je ne suis pas sorti de la vie politique. Naturellement, on peut exercer une carrière politique, une fonction politique, ou dans un ministère, ou en dehors du ministère. En juillet dernier, le gouvernement actuel, M. Charbon-Delmas, m'avait proposé de rester dans le ministère et de me donner un poste qui n'est pas du tout anodin et qui était très honorable pour moi, naturellement. C'était la succession de M. André Malraux comme ministre d'État chargé des affaires culturelles. Les questions de culture m'intéressent beaucoup, je pense qu'il y a énormément à faire. Mais pourquoi ai-je refusé à ce moment-là ? C'est parce que j'étais soucieux également, vous retrouvez un peu le préjugé moral que j'ai eu en 62, de ne pas décevoir les gens, et notamment les enseignants ou les jeunes, qui avaient fait fond sur moi, au point de vue éducation nationale, et qui auraient pu croire que je les abandonnais volontairement. Naturellement, j'aurais pu dire, le gouvernement, pour des raisons qui lui appartiennent, ne veut pas me laisser au même poste, j'en prends un autre où je peux rendre service. Mais peut-être ils ne l'auraient pas cru. Ils auraient dit, l'essentiel pour lui, c'est de rester ministre, il prend un autre ministère. Il quitte en somme un poste exposé, un poste à l'avant, comme dans l'armée, pour prendre un poste d'état-major. Je n'ai pas voulu qu'ils aient cette opinion, plutôt pour eux que pour moi. Les jeunes sont très sensibles à cela. J'ai reçu des centaines de lettres, peut-être plus d'un millier, je ne sais pas compter, de jeunes, d'étudiants, dont certains m'ont dit, on doutait de vous, mais vous avez été convenable. Vous ne nous avez pas déçus. Vous avez montré que vous aviez cru à votre mission. C'est pour cela que j'ai refusé à ce moment-là de prendre un autre ministère. Non pas parce qu'il ne m'intéressait pas. Mais je compte, et j'ai continué d'ailleurs, de me consacrer à une certaine activité politique, publique. D'abord, je suis redevenu député. Et j'essaie de profiter d'un temps plus libre pour réfléchir à beaucoup de problèmes que l'on voit plus rapidement quand on est chargé d'une gestion. C'est ainsi que j'ai publié mon livre, L'âme du combat, qui me vaut l'occasion d'être reçu par vous, et que encore récemment, notamment dans des conférences aux États-Unis, j'ai approfondi le thème de la société de développement, ce que je compte faire encore. Donc vous me demandez si j'accepterai ou non de rentrer au gouvernement, eh bien je ne peux pas vous le dire, parce qu'on ne peut pas prendre décision dans l'absolu. Je ne veux pas être ministre à tout prix, je ne veux pas non plus n'être pas ministre. Tout dépendra des conditions, des circonstances et surtout de la signification de cet engagement. Actuellement, je ne cherche pas à être ministre pour l'avoir été, je l'ai été souvent. Je ne cherche pas à être ministre pour être en vue, parce qu'on ne m'abandonne pas. Et votre convocation en est une preuve. Mais souvent, on me sollicite de venir ou à la radio, ou à la télévision, ou dans des postes périphériques. On me demande beaucoup de conférences. Quand je vais à l'étranger, je suis reçu avec beaucoup de gentillesse. Par conséquent, le ministère n'est pas pour moi un honneur, une accession à un étage que je n'aurais pas encore atteint. Je cherche surtout à servir les causes auxquelles je suis attaché, à donner une signification à ma vie, n'est-ce pas ? À essayer, je suis arrivé tout de même dans une période de la vie où il faut faire le point, faire la somme. Je crois n'avoir pas démérité jusqu'ici, dans la mesure des forces que j'ai encore et du temps qui me reste. Je voudrais, par quelque voie que ce soit, qui peut être une voie gouvernementale ou une voie non gouvernementale, arriver à avoir terminé mon œuvre, autant qu'on puisse parler d'une œuvre terminée, à lui avoir donné sa signification la plus forte. C'est pourquoi j'avais été heureux de prendre l'éducation nationale, parce que je pensais que la modernisation de notre enseignement, sa démocratisation, le dessin des nouvelles perspectives de la jeunesse et de l'étude, et non seulement l'étude pour la jeunesse, mais l'éducation permanente, la formation de l'homme, cela c'était quelque chose à quoi on pouvait se consacrer.
Edgar Faure, même vos adversaires politiques ont pour vous beaucoup d'estime. Est-ce parce que vous êtes prodigieusement adroit ?
Vous savez, je crois que l'adresse n'y suffirait pas. Seulement, c'est toujours difficile de parler de soi. Naturellement, je ne me considère pas comme maladroit. Vous comprenez, quand vous allez chercher un chirurgien, vous ne demandez pas un chirurgien maladroit. Chaque activité comporte une certaine partie de technique. Il y a une technique politique, une technique de la conception et de l'expression. Donc je considère, pour parler franchement, que j'ai acquis cette technique parce que j'ai fait les études nécessaires, j'ai l'expérience, et comme je vous le disais, mon expérience d'avocat ou de professeur a aidé mon expérience politique. Mais la technique est au service d'un objectif, au service d'un idéal. Je ne fais pas de la technique pour la technique. Donc je crois que l'adresse ne suffirait pas. Et si je peux avoir en effet l'estime d'un certain nombre de mes adversaires, c'est, je crois, parce qu'ils comprennent que je suis un homme sincère et que je ne renonce jamais à mes positions quand elles sont arrêtées, quand elles sont bien consenties, profondément vues. J'aurais pu à certains moments prendre un tournant certainement plus profitable dans ma carrière, plus bénéfique, que je n'ai pas fait parce que, d'abord, j'ai toujours voulu être très loyal dans les équipes où je me trouvais. Ainsi, je pense que si vous consultiez M. Mendès France, par exemple, qui n'est pas du même bord que moi, si vous consultiez par hypothèse le général de Gaulle, eh bien, je pense qu'il ne vous dirait pas le contraire. J'ai toujours été le membre loyal d'une équipe, parce que tout dépend du jeu d'équipe. Mais ensuite, j'ai toujours été fidèle à un certain nombre d'opinions et de directions d'esprit qui sont les miennes. Je pense que, plus que l'adresse, c'est cela peut-être qui me vaudra, en effet, d'avoir une certaine considération, même parmi ceux qui me combattent ou qui n'admettent pas mes idées.
Monsieur le Président, vous avez le génie du verbe, vous avez la phrase facile, vous savez parler devant des foules. Est-ce que tout cela, ça s'apprend? Est-ce qu'il y a des cours pour les hommes politiques?
Je ne sais pas. Personnellement, je n'en ai pas suivi. Mais tout peut s'apprendre. C'est-à-dire qu'il y a une combinaison des capacités initiales, qui d'ailleurs peuvent être fortement modifiées par l'éducation, de l'expérience que l'on acquiert et de l'emploi qu'on en fait. D'autre part, bien sûr, je le reconnais, je suis peut-être plus orateur que d'autres. Mais un homme qui serait moins doué que moi au point de vue oratoire pourrait réussir tout aussi bien. L'expression ne dépend pas uniquement du brillant, par exemple. De sorte que certains peuvent se laisser aller à leur nature, si elle est exubérante, si elle est plus éloquente. D'autres seront plus gênés, peut-être souvent ils liront des textes, mais cela n'a pas d'importance. Et vous pouvez trouver un homme qui, avec un texte lu, ou même dit d'une façon moins adroite, peut porter beaucoup. Surtout maintenant. Parce que maintenant, ce qui compte beaucoup, c'est le fond. Ce que veut l'opinion, c'est la vérité des solutions. En réalité, l'art oratoire, les techniques d'expression, sont importantes dans un milieu clos. Par exemple, devant un tribunal, dans un prétoire, dans la présence physique, naturellement, cela joue. Vous ne ferez pas un très bon avocat d'assises, métier qui n'était pas le mien, j'ai jamais été avocat d'assises, sans les capacités nécessaires. Vous ne ferez pas un Florio ou un Tixier Vignancourt avec quelqu'un qui ne s'exprimera pas très bien. De même, dans le temps où tout dépendait des mouvements de séance, par exemple à la chambre, où une intervention à la tribune ou même du banc pouvait porter énormément, là, il y avait, si je puis dire, beaucoup plus d'efficacité à ce qu'on appelle l'éloquence. Mais actuellement, le public est à l'écoute, par la radio, par la télévision et surtout par le fait. Donc, il recherche ce qui s'est passé. Et quelqu'un qui ne ferait que parler, qui n'agirait pas, ne serait peut-être pas très admis, très considéré. Aussi, je m'excuse de parler de nouveau de moi. Naturellement, j'ai expliqué mes idées, et peut-être l'ai-je fait mieux que d'autres ne l'auraient fait. Et d'autres l'auraient peut-être fait mieux que je ne l'ai fait. Mais il y avait aussi le fond. Quand j'ai suivi une politique, j'ai toujours cherché à la faire aboutir. De 1953 à 1956, j'ai dirigé les finances et l'économie de ce pays. Alors, là, il ne s'agit pas de discours. Les cotes de la bourse, le change, les réserves, le revenu national, le taux des salaires, l'indice des prix, ce n'est pas oratoire. Eh bien, vous pouvez considérer la situation qui s'est passée pendant ces 2 ans et demi. Vous pouvez reprendre aujourd'hui, parce qu'on a oublié le souvenir, par exemple les rapports des comptes de la Nation, et vous verrez que pendant 2 ans et demi, la situation de l'économie française a été bonne. Il peut y avoir une part de chance. Ce que je veux dire, c'est que le résultat a été conforme aux indications. Quand j'ai pris la charge du gouvernement après M. Mendès France en 1955, je l'ai eu pendant près d'un an. j'avais à résoudre le problème de la Tunisie et le problème très difficile du Maroc. Naturellement, les personnes qui estimaient qu'il fallait garder les protectorats, ne pas avancer, maintenir la présence par la force, ceux-là ne seront pas d'accord sur ma politique. Le problème est de savoir si la politique que j'ai annoncée, je l'ai ou non réalisée. Eh bien, j'ai terminé les accords avec la Tunisie, j'ai donc évité la guerre en Tunisie, j'ai amorcé les accords avec le Maroc à un point tel qu'il n'y a pas eu de guerre avec le Maroc. De sorte qu'aujourd'hui, tout de même, si vous allez comme cela m'arrive, comme ça arrive à beaucoup de monde, en Tunisie ou au Maroc, eh bien, vous ne trouverez pas les séquelles d'une guerre qui n'a pas eu lieu. Et malgré l'affaire Ben Barka et malgré tout, regardez l'affaire du Maroc, où j'ai été vraiment vilipendé par des hommes que j'estimais, d'ailleurs, qui étaient attachés aux souvenirs de la conquête, de l'Empire. On m'a accusé à ce moment-là d'avoir trahi les amis de la France. Une chose tout de même qui va droit à mon cœur. Il y avait le Glaoui, n'est-ce pas? Le Glaoui, c'était le symbole de l'amitié française. On m'a dit, ces gens-là sont les victimes de votre politique. Qu'est-ce qui est arrivé? Grâce à cette politique que nous avons faite, nous avons compris les aspirations du peuple marocain, son attachement à la dynastie. Nous avons ramené, avec M. Pinet, qui était avec moi, l'ancien roi, dont le fils règne actuellement. Alors que se passe-t-il aujourd'hui? C'est que nous avons vu arriver à Paris le nouvel ambassadeur du Maroc en France. Et ce nouvel ambassadeur, quel est-il? C'est le fils du Glaoui.
C'est une continuité.
Notre grand ami. Quelle joie pour moi, quand il est venu me voir l'autre jour dans mon appartement, n'est-ce pas, d'évoquer à la fois la mémoire de son père et l'amitié franco-marocaine. Pour vous citer un autre exemple, quand le général de Gaulle m'a chargé d'aller en Chine et de voir ce qui se passerait, eh bien, j'ai rapporté un accord entre la France et la Chine populaire, au terme duquel nous sommes un des rares pays occidentaux à avoir des relations avec ce pays. Il y a un ambassadeur de Chine à Paris, il y a un ambassadeur de France à Pékin. Alors, on peut être contre, mais c'est une réalisation. Quand j'ai pris le ministère de l'Agriculture, le marché commun était au réfrigérateur. Il fallait le dégeler. Les contacts n'avaient plus lieu. Les ministres ne se réunissaient pas. Et j'avais promis à mes agriculteurs que je donnais ma caution à une politique européenne avec le général de Gaulle. Aussi, quand le général de Gaulle m'a proposé ce ministère-là, je l'ai pris. Tout de même, les réunions ont repris, les accords ont été passés, le marché commun a été créé. Et quand j'ai quitté l'agriculture en juillet, tous les accords qui devaient être passés avaient été passés. Naturellement, il a fallu continuer, mais je n'avais pas arrêté l'action, je l'avais poursuivi jusqu'à son terme. Pour l'éducation nationale, on m'a demandé de faire une loi, je l'ai faite. Cette loi a été votée, elle a été votée à l'unanimité. Vous direz que c'est un effet de charme, je ne voudrais pas vous décourager là-dessus. Mais il est évident que le charme ne suffirait pas à convertir le général de Gaulle, qui n'est pas un homme très influençable, tout le gouvernement, et puis toute la Chambre, et puis tout le Sénat. Et quand la loi a été votée par tout le monde, encore il fallait l'appliquer. Ben, quand j'étais là, elle a été appliquée. On m'a dit, les étudiants ne voteront pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les étudiants ont voté. Ils ont voté à 53%, toutes causes confondues, donc plus qu'on ne vote à aucune élection professionnelle. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que l'art oratoire peut avoir sa valeur, mais ce n'est pas d'après cela que l'on peut juger une gestion.
Il faut des preuves.
Les résultats.
Edgar Faure, vous avez parlé de charme à l'instant. Vous êtes parfaitement conscient de celui que vous avez.
Et du moment que vous le dites, il serait malséant de vous contredire, mais chacun peut avoir son opinion là-dessus.
Il y a des qualités chez un homme politique. Quelles sont les vôtres?
Eh bien, mais il y a aussi des défauts.
Alors, prenons les défauts d'abord.
Oh, ben, ce n'est pas à moi d'en parler.
Vous les connaissez bien, quand même.
Peut-être. Je peux, si je puis dire, révéler comme défaut la tentation permanente d'accorder trop d'importance à tout ce qu'on me dit. Je n'aime pas ne pas faire complètement le tour des problèmes. Je suis toujours très, très impressionné par toutes les positions. Et alors, souvent, je ne m'entête pas dès le début. J'écoute très longuement, je discute, de sorte que beaucoup de mes interlocuteurs peuvent croire qu'ils m'ont convaincu, alors qu'ils m'ont intéressé sans m'avoir convaincu. Donc, on m'a reproché quelquefois, si je puis dire, de trop discuter, de trop écouter, de trop concerter, de trop ménager mes adversaires, qui, eux, inversement, ne m'ont pas toujours ménagé.
La première qualité chez un homme politique, c'est l'honnêteté?
Je crois, c'est la conviction.
Edgar Faure, il y a une question importante. Enfin, certaines personnes accordent de l'importance aux signes astrologiques. Vous êtes du lion, votre femme est du cancer, et si l'on s'en tient aux conclusions d'un livre américain qui vient de paraître, on s'aperçoit qu'il y a tout ceci chez vous. Alors, je vous le dis comme cela a été écrit. Vous seriez donc ambitieux, vous souhaitez la richesse pour ce qu'elle procure, abondance, influence, prestige social, vous avez beaucoup de générosité. Votre femme n'est pas toujours d'accord avec vos extravagances, elle est économe et fort avisée dans les questions financières. Vous aimez sortir, vous, voir du monde, en être vu, être admiré, attirer la flatterie. Votre femme, Cancer, ne déteste pas la société, mais elle a l'intelligence de vous laisser briller comme vous le désirez. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette situation des signes astrologiques ?
Vous savez, je ne peux pas prendre parti sur la question de l'astrologie, mais j'ai entendu dire par mes amis compétents qu'on ne peut pas se fier uniquement aux signes zodiacales. Par exemple, dans mon cas, celui du lion. Parce que ce qui compte essentiellement, c'est, si je peux dire, la combinaison du signe zodiacal avec l'ascendant. Mais pour vous rassurer, d'après mes analyses astrologiques, je suis du signe lion avec l'ascendant soleil, ou enfin quelque chose de tout à fait brillant. Mais maintenant, on reconnaît en général, en effet, que les lions, j'en parlais avec des amis qui sont de ce signe, sont un peu ambitieux, importants, etc. Il y a un point que je révoquerai peut-être en doute, c'est le goût de la richesse. En réalité, si j'avais cherché la richesse dans la vie, j'aurais pu faire un métier tout à fait différent. Puisqu'on veut bien me reconnaître certaines capacités, je peux dire d'ailleurs notamment que dans la profession d'avocat, j'étais évidemment très bien placé, j'avais très bien réussi avant la guerre lorsque j'étais très jeune. Donc c'est une profession qui présente évidemment beaucoup d'avantages matériels. Je n'ai pas cherché cela. Naturellement, j'aime bien vivre convenablement. Le hasard fait, je ne veux pas évidemment changer les choses, que je ne suis pas issu d'une famille prolétaire et que je n'ai pas été en effet aux prises avec des embarras de cet ordre. Mais ce n'est pas l'ambition de ma vie. Évidemment, c'est plutôt l'ambition des idées et l'ambition de la vie publique. Quant à mes extravagances, ça dépend de ce qu'on appelle le mot extravagant.
C'est donné dans le signe astrologique.
Dans en droit canonique, on parle des extravagantes, c'est-à-dire celles qui sont extra canonum vagantes, c'est-à-dire qui sont en dehors du canon, en dehors de la ligne, en dehors des rails, si vous voulez dire. Dans ce sens, je peux l'accepter. Et ma femme est une personne d'une intelligence remarquable, qui a une grande faculté de se passionner pour les grandes causes, et elle m'a évidemment beaucoup aidé. Et tout en n'étant pas toujours d'accord sur beaucoup de points, je crois que cela a été très productif au point de vue de ma vie intellectuelle, et peut-être après tout de la sienne.
Est-ce que vous pensez, Monsieur le Président, qu'une femme a une lourde responsabilité dans la construction de la vie d'un homme, de son mari en l'occurrence ?
C'est une formule très générale, elle ne peut pas couvrir tous les cas particuliers. Dans ce cas-là, certainement. Mais dans d'autres cas, je ne peux pas en présumer.
Acceptez-vous la contradiction ?
Très facilement, peut-être trop. Je suis toujours ébranlé par la contradiction. Tout argument m'intéresse. Je n'arrive pas à fermer mon esprit aux objections.
Vous l'écoutez, mais est-ce que vous la recherchez ?
Je la rencontre toujours, ce qui prouve que je ne la fuis pas. Et souvent, mes collaborateurs m'ont beaucoup contredit. J'aime beaucoup cela. J'ai pris souvent des gens comme collaborateurs qui m'avaient beaucoup contredit. Parce que je me suis dit, il faut qu'ils aient leur franc-parler. Et du moment qu'ils me contredisent, c'est qu'ils sauront défendre la politique à laquelle ils seront associés contre les gens qui la contrediront. Oui. Monsieur Duhamel, monsieur Giscard d'Estaing, parmi mes collaborateurs, oui. Monsieur Sudreau, j'ai eu, je crois, d'assez brillants collaborateurs, peuvent vous dire...
Vous allez être fiers.
Un jour, quand je revenais au ministère des Finances, je ne dirai pas quand, un de mes directeurs le plus important est arrivé et il m'a dit « Monsieur le ministre, est-ce qu'on va pouvoir vous contredire ?» Parce qu'il paraît que mon prédécesseur n'aimait pas la contradiction. Je lui ai dit oui. Alors il s'est épanoui, il a amené tous les autres et tous les directeurs sont venus pour me contredire. C'est comme ça qu'on pouvait travailler et avancer.
Je vous disais tout à l'heure, Monsieur le Président, après une harassante journée, comment retrouvez-vous votre appartement de l'avenue Foch ? C'est un rituel ?
Eh bien, je le retrouve normalement. Et
vous arrivez à vous dégager de vos soucis ?
Non, je ne peux pas dire que je m'en dégage. Cela dépend des périodes, mais notamment quand j'étais au ministère de l'Éducation nationale, ma vie était complètement incorporée dans le ministère, même quand je n'étais pas chez moi ou à la campagne où je vais souvent pour le week-end. Je recevais des coups de téléphone assez tard, le soir, vers 11h, minuit, pour faire le point, savoir s'il n'y avait pas quelques chahuts, quelques désordres dans une faculté de province. Et puis je réfléchissais évidemment un peu à la suite. Donc quand je suis engagé dans une action très importante, je dois dire franchement que je ne m'en dégage à peu près pas, à peu près jamais. Et c'est d'ailleurs un inconvénient parce que Cela a des inconvénients pour le sommeil.
Il faut que vous dormiez beaucoup ?
Oui, j'aime bien dormir. Seulement, si je suis très préoccupé, je m'endors quand même. Mais alors, quand je me réveille, je ne me rendors pas.
Dans votre campagne, Edgar Faure, vous êtes bricoleur ?
Pas du tout.
Le travail manuel, ça n'est pas pour vous ?
Non, je ne sais pas, je n'ai pas le temps. Je suis toujours occupé à autre chose. Je voudrais bien, je dis que je vais m'y mettre, et puis ça ne se fait pas.
Votre passion dévorante, je crois que c'est la lecture. Vous lisez
tout ? Oui, j'aime
tout.
Beaucoup lire, oui, je lis beaucoup, c'est exact, oui.
Vous avez un choix précis, ou bien...
Non, je lis de tout. Ma faiblesse, c'est de lire des romans policiers. J'en ai même écrit.
Oui, Edgar
Sandé. C'est un péché de jeunesse.
Déjà, il y avait le côté, le côté formule, le côté anecdote dans le pseudonyme.
Alors là, vous avez une certaine évasion. Je me rappelle un patron que j'ai eu, qui est un homme merveilleux, on ne lui a pas toujours assez rendu justice, le président Cueil. Il me disait, voyez-vous, Edgar, ben, quand je suis très préoccupé, le soir, je prends un roman du Masque de la Série Noire, alors je le lis et puis je m'endors.
Vous écrivez en ce moment un roman policier ?
Oh non, je n'ai pas le temps d'écrire des romans policiers, mais je n'en ai plus le goût. J'ai eu un moment le goût d'écrire des romans policiers parce qu'il n'y avait pas de romans policiers français, il y en avait très peu. Nous étions tributaires des anglo-saxons. Mais maintenant, d'abord, il y a une production énorme de romans policiers. Et puis, il y a pas mal de romans policiers français, de très bons romans policiers français.
Quels sont, par exemple, les bons auteurs pour vous français ?
Je ne sais pas, par exemple, Montaillé, Jacques Rizot, un auteur qui est moins connu qui s'appelle Laurent Soriol. Beaucoup d'auteurs publiés, réclames gratuites, dans la collection jaune de Noël, qui sont des auteurs excellents. D'autre part, le roman policier qui m'a intéressé, c'était, si je puis dire, le roman policier classique. C'est le jeu d'échecs, si vous voulez. Un roman policier très abstrait, où l'on cherche une solution à un problème. J'aime moins les romans d'aventure, avec les détectives privés qui boivent du whisky toute la journée, et les gens qui tombent comme des mouches.
L'espionnage, non.
Je les lis quand même. Oh non, j'ai horreur de ça, parce que j'arrive pas à y croire. Je sais bien que ça ne se passe pas comme ça. Il y a de l'espionnage, mais pas du tout comme le décrivent les romans policiers. La crédibilité est un peu absente.
Monsieur le Président, je sais que vous faites une certaine idée de la France et j'aimerais savoir ce que vous pensez, par exemple, du livre de Roger Perfit, Des Français. Vous l'avez lu d'abord ?
Non. Oui, alors, je ne serais pas digne d'être professeur d'histoire du droit si je pouvais discuter d'un texte que je n'ai pas lu, monsieur Chancel. Je veux dire que j'ai lu plusieurs ouvrages de cet auteur et toujours avec beaucoup de plaisir. Parce qu'on peut en penser ce qu'on veut, mais la première qualité de l'auteur, c'est d'être intéressant, vivant. Alors, c'est un auteur intéressant et vivant, on ne peut pas le discuter. Mais ce livre, je ne l'ai pas lu. Je le lirai. Bon, je lis aussi beaucoup de publications étrangères, anglaises et russes. Alors, ça me prend également beaucoup de temps.
Vous êtes tellement attachant, monsieur Edgar Faure, que l'on se demande si vous êtes attaché à quelque chose.
Mais je suis attaché à beaucoup de choses, monsieur Chancel. D'abord, je suis attaché à ma famille, dont vous m'avez parlé tout à l'heure d'une façon idyllique, mais enfin qui correspond à une affection très profonde de ma part. Je suis attaché également à ma région. Je suis attaché à la Franche-Comté, bien que je n'y sois pas né. Mais j'ai fait ma carrière politique. Je suis maire depuis 25 ans, je suis conseiller général depuis longtemps, d'abord dans le Jura, puis dans le Doubs. J'ai essayé de faire une œuvre, notamment dans le département du Jura, je crois qu'on ne peut pas me contredire, et ensuite sur le plan des institutions régionales. J'aime ce pays, j'y suis attaché. J'aime y revenir, voir les grands pâturages, voir la vache montbéliarde, voir les éleveurs, voir la population, mes amis les maires, ce qu'on appelle les moustachus maintenant, il y en a qui disparaissent et puis les jeunes. J'aime beaucoup ce pays, j'aime vivre près du peuple, près des gens, près de la vie, la vraie vie, n'est-ce pas, que nous trouvons, notamment dans une province comme celle-là. Et puis je suis attaché à la France, je crois pouvoir le dire. Je l'ai montré dans beaucoup de circonstances, mais je suis attaché à la France, non pas d'une façon chauvine, mais au rôle international qu'elle peut jouer actuellement. Et enfin, je dois vous dire, c'est un peu prétentieux, ça peut paraître un peu scolaire, je suis attaché au problème de l'humanité actuelle, problème très angoissant.
Nous parlions à l'instant des livres. Il y a en ce moment une évolution, plutôt, disons, une révolution érotique. Est-ce que vous aimez les livres scandaleux ? Est-ce que vous vous sentez concerné ?
Ben, je dois dire que je ne suis pas très porté. J'ai essayé d'en lire quelques-uns en français. Et en général, ils m'avaient ennuyé. Et il y en a un qui est très célèbre, je ne veux pas dire lequel, pour ne pas lui porter préjudice. Mais au bout de 50 pages, j'ai trouvé que c'était une monotonie extrême. Récemment, étant en Amérique, de façon à développer ma connaissance de l'anglais, j'ai cherché des livres faciles. Donc j'ai pris dans des petites bibliothèques des livres genre populaires. Je suis tombé sur deux ou trois qui sont ce qu'on appelle des pornos. Finalement, je les ai lus parce que c'est très facile à lire. Les seuls mots qu'on ne comprend pas ne se trouvent pas dans le dictionnaire. Mais je ne suis pas tenté par cette littérature. Je serais peut-être intéressé par une littérature sentimentale ou même érotique, si je puis dire, assez fine, enfin, dans la, dans la tradition, si vous voulez, du XVIIIe siècle, mais pas par ses effets massifs, où je trouve d'ailleurs que l'érotisme se détruit lui-même, de même que l'impôt excessif tue la matière imposable, un excès d'érotisme tue complètement l'érotisme.
Vous pensez de la même manière pour ce qui concerne les spectacles? Je pense à R, à Calcutta...
Je n'ai pas vu R, j'ai vu Calcutta aux États-Unis, et si bizarre que cela paraisse, je n'en ai pas été scandalisé. J'ai trouvé que c'était très drôle, j'étais sensible au comique. C'est un comique très vigoureux. Il se place dans des conditions, dans des sujets scabreux. Mais c'est en somme des ressorts comiques qu'on trouve aussi bien dans les pièces de Molière. Il y a des scènes absolument échevelées qui sont très très réellement comiques. Il est possible, d'ailleurs, ma femme me disait que si nous n'avons pas été plus scandalisés par ce spectacle, c'est parce que ne connaissant pas les finesses de la langue, nous n'avons pas tout compris.
Monsieur Edgar Faure, vous êtes, je crois, pianiste aussi.
Oui, je joue du piano, mais pas très bien. J'ai appris le piano parce que dans ma famille, tout le monde était pianiste. On se mettait au piano. Ma mère qui a, je dois bien le dire, 90 ans, même un peu plus, elle joue toujours du piano. Ma sœur est pianiste, elle a fait une carrière de pianiste. Ma nièce est pianiste. J'ai encore un piano qui est dans le couloir, je joue un petit peu de temps en temps. Mais je ne peux pas me considérer comme un vrai pianiste.
Vous avez votre mère, j'aimerais savoir comment elle vous voit aujourd'hui.
Eh bien, vous savez, c'est une personne très âgée, alors on ne peut pas lui demander, n'est-ce pas, de suivre peut-être avec une très grande minutie tous les événements, mais elle a tout son jugement. Je vais la voir de temps en temps, pas aussi souvent que je devrais d'ailleurs. Elle a beaucoup de bon sens. J'ai la chance de l'avoir gardée.
Je sais que tout ce qui est aujourd'hui vous passionne, Edgar Faure. Et de la même manière, les chanteurs doivent vous accrocher. Vous devez avoir votre propre répertoire. Quelles sont, par exemple, les vedettes que vous aimez?
Mais vous savez, il y a une chose que je voudrais que vous compreniez, c'est que je n'ai pas tellement de temps. Alors, je ne peux pas m'occuper d'énormément de choses, étant donné que je suis obligé de remplir ma fonction de député, que j'ai fait, par exemple, beaucoup de voyages, que, comme député, j'anime tout de même un certain groupe, comme vous le savez, un ensemble d'amis, que j'ai écrit récemment ce livre, que je fais souvent des conférences, des exposés, que je m'occupe beaucoup de ma région. Je suis obligé de prendre beaucoup sur le temps d'écoute ou sur le temps de loisir proprement dit. Donc, je ne peux pas aborder ce sujet. J'aime bien entendre les chanteurs quand je prends un poste ou quand j'écoute la télévision, mais pas à un point qui me permette de tout connaître et de tout juger. Ce n'est vraiment pas possible.
Vous avez un répertoire personnel.
Je connaissais mieux cela, si vous voulez, avant 1940. C'était la grande période, enfin, de Charles Trenet, par exemple. À ce moment-là, tout le temps, j'entendais des chansons. Mais maintenant, beaucoup moins. Beaucoup moins.
On dit que vous
je trouve tout bon. Tous les morceaux qui arrivent au succès me paraissent en général bons et
de Johnny Hallyday à Georges Brassens.
Oui, oh, j'aime beaucoup Georges Brassens, naturellement. Nous en parlons tout à l'heure. Comment ne pas aimer Georges Brassens? Mais même au point de vue humain, c'est très attachant. Mais Johnny Hallyday, c'est une force de la nature. Il est formidable, naturellement. Je l'aime beaucoup aussi.
Edgar Faure, on dit que vous avez un caractère facile, mais qu'en revanche, vous avez parfois des sautes d'humeur.
Oui, je crois.
Et qu'à ce moment-là, ça peut barder.
C'est peut-être un de mes défauts, oui, oui.
Un défaut ou peut-être une fausse qualité?
Peut-être une caractéristique, oui.
Vous êtes
je sais que le matin, dans mon entourage, on dit est-ce qu'il est de bonne humeur ou de mauvaise humeur?
Vous êtes passionné, Edgar Faure. Est-ce que la passion n'est pas parfois une chose très dangereuse?
Je m'efforce d'être rationnel tout en étant passionné. Voilà le problème. Si vous n'êtes pas rationnel, vous ne pouvez pas amener votre passion à son terme. Et si vous n'êtes pas passionné, alors pourquoi? Pourquoi s'intéresser à tellement de choses? Pourquoi s'intéresser aux grandes causes si on n'est pas passionné? Alors on n'a qu'à s'intéresser à sa vie quotidienne, à des affaires pratiques, diriger un fonds de commerce qui est tout à fait honorable, mais qui n'exige pas la passion.
Vous avez le génie politique, mais tout cela, ça ne fait pas quand même une existence. Il est vrai que vous avez beaucoup d'autres choses. Je disais, en commençant cette émission, vous étiez multiforme, que vous touchiez à tout.
C'est mais non, mais je suis multiforme d'une façon limitée. Je m'intéresse à la politique, je m'intéresse à la philosophie, je m'intéresse à l'idéologie. Mais il y a beaucoup de domaines que je ne connais pas ou peu, alors je m'en fais une raison et je ne les traite pas.
Edgar Faure, il y a quelque chose d'important dans votre vie actuelle, c'est le dernier livre que vous venez de publier, que vous avez publié il y a quelques mois déjà, titre « L'âme du combat qui est paru chez Fayard ». Il s'agit d'un essai, et c'est un essai pour réanimer la pensée politique. Elle en avait véritablement besoin.
J'essaie en tout cas d'y concourir. Je crois que nous vivons souvent sur des thèmes tout à fait usés. il est absolument impossible de trouver une justification intellectuelle à la division actuelle des partis politiques. Donc j'ai cherché à reprendre ces problèmes d'une façon plus fondamentale. Notamment, il y a le grand problème du marxisme ou du non-marxisme, de la révolution, de la non-révolution. Or, il y a beaucoup de faux à cela. Parce que Marx avait raison sur beaucoup de problèmes, ses prévisions ont été par contre démenties sur d'autres points. Il faut savoir ce qui en reste aujourd'hui. Le problème pour nous n'est pas de combattre le marxisme, par exemple, il est de le dépasser. Et je cherche sur quel point des hommes qui se disent marxistes et des hommes qui se disent non-marxistes sont véritablement opposés. Quelquefois, ces points n'existent pas. De même, le thème de la révolution. J'ai discuté avec de jeunes gens révolutionnaires. Je dis, quelle est la révolution que vous voulez faire ? Il s'agit de savoir quel est votre objectif, c'est ce que nous devons étudier. Il peut y avoir des révolutions anodines, comme la révolution de 1830, qui n'a pas été très importante. Inversement, il y a des situations non révolutionnaires qui sont très graves. Par exemple, ce qu'on appelle la réforme, c'est-à-dire le protestantisme a déchaîné des guerres de religion pendant un temps très considérable. Les gens sont massacrés là-dessus. Une partie de la France est allée dans l'émigration. Ça ne s'appelle pas une révolution. Néanmoins, c'était un phénomène considérable. Quelle peut être aujourd'hui la révolution ? La révolution ne peut avoir comme but, et ça c'est la thèse de Marcuse, c'est pour ça que je le prends au sérieux, que d'arrêter l'expansion, d'arrêter le progrès, en disant il y en a trop, on s'y perd, bon alors arrêtons tout. C'est une position, on peut en discuter. Mais si les révolutionnaires n'ont pas comme objectif d'arrêter le mouvement de l'expansion, alors ils doivent abandonner leur thèse parce que ce résultat, ils l'obtiendront. Donc s'ils ne le cherchent pas, c'est une erreur. J'ai voulu donc dépasser, si je puis dire, ces démarcations. Je ne parle pas des démarcations fantaisistes comme celles de parti radical, parti socialiste, etc., PDM. Je parle des démarcations en profondeur. J'ai voulu les dépasser et voir quels étaient les problèmes essentiels sur lesquels il pouvait y avoir vraiment une confrontation, un antagonisme, en somme une guerre de religion.
Et cette concordance entre la nouvelle société de Chaban-Delmas et le contrat social d'Edgar Faure, est-ce qu'il faut être attaché à une idée ?
J'ai formulé la théorie du contrat social il y a déjà quelques années. Je suis en train de la travailler, naturellement, et de l'améliorer, de l'approfondir. M. Chaban-Delmas s'est placé sur une recherche un peu analogue. Il cherche une nouvelle société. C'est très remarquable pour un Premier ministre que d'avoir ce souci, cette préoccupation, au lieu de faire simplement la gestion, ce à quoi il pourrait se limiter, de chercher à concevoir un schéma de société. Mais naturellement, il est limité par sa fonction. Comment voulez-vous qu'il ait le temps d'y réfléchir ? Il a lancé l'idée d'une nouvelle société, donc quelque chose d'autre. J'ai donné une idée un peu plus précise, n'est-ce pas, avec le nouveau contrat social. C'est un nouveau fondement de l'acceptation par l'homme de la société. Mais en ce moment, je suis en train de travailler justement à l'étude du modèle de la société de développement. Mais cette recherche, en somme, vous remarquerez que peut-être en me donnant, je vais m'excuser de le faire, le rôle de précurseur, puisque j'ai commencé cela il y a 7 ans avec le nouveau contrat social, ensuite avec mon livre « Prévoir le présent » qui a été publié il y a quelques années. Actuellement, il y a une recherche commune. Comme vous savez, dans les inventions, quand on a inventé certaines choses, plusieurs inventeurs ont travaillé dans des pays différents, puis ils se rencontrent. Actuellement, j'observe, je discerne des signes d'une recherche analogue chez des hommes très différents. Garaudy, sur le point de quitter le Parti communiste, cherche un autre modèle de socialisme. Servant Schreber et Maurice Faure, à l'intérieur du Parti radical, avec Ciel et Terre, ont cherché quelque chose. Chaban-Delmas avec la nouvelle société, et moi-même avec l'âme du combat et ma société de développement. Nous sommes, en somme, dans la même aspiration. Alors je crois que nos efforts pourraient se rejoindre. Ou alors nous devrions aboutir à définir notre position. C'est pour ça que j'ai indiqué dans mon livre qu'un point très important, ce n'est pas uniquement de chercher des concordances, soit qu'on peut toujours parvenir, mais de chercher des discordances. Je voudrais savoir sur quoi on n'est pas d'accord. Je suis très content quand je rencontre quelqu'un qui me dit franchement, les gens sont trop instruits, il y a trop d'étudiants, c'est pas la peine, il faut pas instruire tout le monde comme ça, il faut une culture pour l'élite. Alors là, je suis content parce que vraiment, nous ne sommes pas d'accord. Quand j'entends M. Robert Poujade, je suis ravi parce qu'enfin, voilà quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord. Je cherche des points d'antagonisme sur lesquels puissent se faire justement des démarcations de l'opinion.
Un homme politique doit-il garder le monopole d'une idée ?
Certainement pas. Il n'y a pas de droit d'auteur en politique. Toute idée doit être prise. Les miennes l'ont été souvent, mais j'ai aussi pris quelquefois celles des autres. Le but de la politique est de réaliser. D'ailleurs, l'idée du plagiat est une idée tout à fait moderne. Molière, Corneille étaient des plagiaires. Ils prenaient des idées qui avaient déjà été traitées, et avec ce qui avait fait de mauvaises pièces, ils en faisaient de très bonnes. N'importe qui peut émettre une opinion, une idée, une suggestion intéressante en politique. le rôle des hommes qui gèrent, qui peuvent réaliser, c'est de prendre toutes les idées qui sont bonnes et de les réaliser.
Edgar Faure, vous avez voulu toujours prouver aux jeunes que chez vous et chaque jour, l'imagination était au pouvoir. Est-ce que vous y avez réussi? Je crois.
C'est pas à moi de le dire.
Lorsqu'on voit par exemple Nanterre, vous avez obtenu 9 voix, 4 voix de plus, et vous étiez doyen.
Ben, je pense que cela est du folklore. Si j'étais professeur à Nanterre, je ne refuserais pas le décanat, bien sûr. Maintenant, mon ambition n'a pas été d'appliquer les théories de l'université moderne dans une université particulière, mais de les appliquer dans toutes les universités nationales. Mon rôle est un rôle ministériel et non pas un rôle décanal. Néanmoins, je suis sensible à cet hommage, même si l'humour en est partie intégrante.
Est-ce que vous confirmez cette phrase que vous avez prononcée un jour ? Un petit nombre d'enseignants, imbu de la formation mandarinale, s'évertue à démontrer que la catastrophe est à nos portes.
Il n'y a pas de doute. Je crois que ce n'est pas moi qui peux le démontrer, c'est eux.
Vous êtes accusé d'avoir livré l'université à une bande de révolutionnaires. C'est les vieilles accusations. Alors aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, comment voyez-vous la situation ?
Ce que je peux dire, c'est que l'histoire est une science difficile, mais l'histoire la plus récente devrait être connue, et que les révolutionnaires étaient là avant que je sois arrivé, comme on l'a vu en mai 1968. On m'a accusé, quand j'ai fait la participation, de faire la part belle aux révolutionnaires. Or, eux ne l'ont pas pensé ainsi, puisqu'ils l'ont refusé. Le but des révolutionnaires, c'était de demander la participation pour que nous la refusions. Naturellement, il ne fallait pas la refuser. Du moment qu'ils la refusent, ils se condamnent eux-mêmes. Et en somme, ils sont les alliés objectifs des conservateurs. C'est toujours comme cela. Les extrêmes s'appuient.
Qui dirige l'université aujourd'hui, les gauchistes ou les communistes ?
Je crois que ce serait une vue exagérée. Vous avez dans les conseils, il faut que la loi se mette en œuvre maintenant, elle commence. Vous aurez dans les conseils des représentants des enseignants et des étudiants, plus du personnel administratif et des chercheurs. Parmi les étudiants, il y a une tendance gauchiste qui refuse d'aller aux urnes. Une tendance un peu réactionnaire qui tantôt accepte, tantôt refuse d'y aller. C'est assez normal que les deux se rencontrent dans la négation. Les uns par passéisme, les autres par futurisme. Au fond, c'est la même chose, c'est le refus. C'est le refus du temps. On peut refuser le temps en proposant d'aller en arrière, ou refuser le temps en proposant de sauter dans le 21e siècle. Mais au fond, c'est la même chose. En réalité, il faut jouer sur les étudiants, conscients de leurs responsabilités, ce qu'on appelle les réformistes, ceux qui s'intéressent à la vie de l'université, et ceux-là acceptent de participer. Alors, quelquefois, ils en sont un peu écœurés par l'attitude conservatrice de certains éléments du corps enseignant, il faut bien le reconnaître. Jusqu'ici, la participation n'a donné aucun déboire. Dans toutes les universités où elle est appliquée, elle marche très bien. Donc, comment condamner la participation à l'aide de l'expérience des endroits où elle n'est pas appliquée ?
Lorsque vous dites, Edgar Faure, la présence de M. Guichard à l'éducation nationale constitue un grand apaisement à la tristesse que j'ai éprouvée en quittant ce ministère. Est-ce que vous êtes sincère ?
Oui, je le suis. Et j'ai attendu d'ailleurs quelque temps pour le dire. Je ne doutais pas sur le plan personnel de la sincérité de M. Guichard, qui est un homme loyal. Mais je ne savais pas si ses dispositions se maintiendraient. Enfin, il y avait un délai à observer. Et d'ailleurs, il y a un aveu fait par le chef de file de l'école réactionnaire qui a dit récemment, mais quand M. Guichard disait cela, eh bien, on ne le croyait pas. Mais maintenant, le temps a passé, on le croit. Pendant quelque temps, ils ont cru que M. Guichard jouait la politique du pire et qu'il allait démontrer que la loi était absurde et inapplicable, que les réformes étaient une folie, qu'alors il dirait, ben, vous voyez, j'ai fait ce que j'ai pu, je n'ai pas pu y arriver, je change d'avis. Or, c'était porté sur l'intelligence de M. Guichard, un jugement fâcheux, et également lui attribue une noirceur qui n'est pas dans son caractère. M. Guichard est un homme moderne, il a pris parti pour l'université moderne, il l'a fait loyalement, et maintenant je crois que ses adversaires, qui étaient les miens, enfin les adversaires de la modernisation, commencent à comprendre ce que tous les gens qui le connaissent auraient pensé dès le début, que c'était un homme sincère et un homme compétent. Alors j'ai estimé que mon devoir était de lui rendre cet hommage et pour éviter tout malentendu, de donner à cette reconnaissance une forme telle qu'elle ne puisse pas être évoquée en doute. Je ne l'ai pas fait sans hésitation et sans méditation, parce que je suis triste d'avoir quitté ce ministère. Et non pas pour des raisons personnelles, puisque je pourrais en prendre un autre, mais parce que je pense que je pouvais continuer sur ma voie, sur ma lancée, mieux que de quiconque. Non pas que les autres soient moins capables que moi, mais parce que l'arrêt est préjudiciable. Et en effet, les 6 mois de flottement qui ont suivi mon départ n'ont pas été bons. Mais je reconnais que M. Guichard a fait ce qu'il pouvait faire, ce qu'il devait faire, et que c'est une chance pour l'université d'avoir un homme comme lui, au lieu d'en avoir certains autres. Alors, du moment que je le pense, je devais le dire. Et j'ai l'impression, d'ailleurs, que ce débat, bien qu'il n'ait pas eu de conclusion, puisqu'il n'y avait pas de vote, ce débat a porté. Il a porté parce que, d'abord, M. Guichard était très bon, très complet, très clair, et aussi parce que j'ai pris une position très nette, et qu'alors, la politique de la réforme, la politique de la participation, a été de nouveau, en somme, confirmée et reconduite par l'Assemblée. Et j'ai vu se reformer à la suite de mon exposé, si je puis dire, la géographie des applaudissements que j'avais eue à l'époque de la loi d'orientation.
Donc c'était plus que de la générosité.
Ce n'est pas une question de générosité, et l'amitié ne m'aurait pas conduit à dire une chose que je ne pensais pas sur ce point. Je l'ai dit d'abord parce que c'était un témoignage que je devais à la vérité, et ensuite parce que j'ai pensé que c'était une action politique qui pouvait aider M. Guichard à faire la politique pour laquelle il a pris parti.
Une autre question importante, ce sera peut-être la dernière. Un homme, nous dit-on, est entré dans votre vie, et cet homme, c'est Jean-Jacques Servan-Schreiber. Je sais que vous êtes déjà expliqué là-dessus.
Écoutez, M. Servan-Schreiber est un homme pour qui j'ai beaucoup de considération. Et je puis dire également de la sympathie. Nous sommes bien connus dans le temps, ensuite nous avons été séparés. Nos voix ont divergé, l'attachement qu'il portait à M. Mendès France l'a peut-être conduit à s'éloigner de moi, et ensuite il a considéré que mon action ne répondait pas à ses propres aspirations, et il a critiqué ce qui était son droit. Nous avons eu un incident personnel qui est oublié depuis longtemps. L'année dernière, il a dit, au fond, je m'étais trompé, la méthode de M. Edgar Faure est peut-être la meilleure, en tout cas c'était la seule qui était possible. Je l'ai retrouvé dans certaines circonstances et je ne demande qu'à voir avec lui des rapports de sympathie et même, je puis le dire, des rapports d'amitié. Naturellement, il n'est pas question, ni pour lui ni pour moi, d'engager une sorte de nouvelle voie, de faire un parti ensemble. Mais je ne vois pas pourquoi je ne reconnaîtrais pas sa valeur et sa bonne volonté. Néanmoins, par exemple, dans l'affaire grecque, je n'étais pas parti dans cette affaire. Je l'ai félicité d'avoir obtenu la libération de Théodorakis. Et si M. Servan-Schreiber désire me demander mon avis, il peut le faire. De même que si j'avais demandé le sien, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Ça ne voulait pas dire que j'avais accepté d'être son conseiller, ce qui était une traduction ridicule.
Est-ce que vous vous considérez comme un homme comblé aujourd'hui, M. Edgar Faure ?
Non, certainement pas, mais je m'attache à ce qui m'intéresse. Je m'attache à poursuivre une action, à poursuivre un combat. Et du moment que j'ai la possibilité de le faire, c'est pour moi un sujet de satisfaction.
Vous êtes un époux heureux, un père attentif, un homme politique installé, un écrivain qui a réussi.
On réussit toujours plus ou moins. D'autres personnes pourraient, dans la même situation, trouver des motifs d'amertume. Dire qu'ils ont été éliminés du gouvernement, qu'ils sont oubliés du public, etc. Chacun réagit aussi d'après son tempérament.
Votre avenir, vous le voyez comment ?
L'avenir, c'est le présent, parce que, comme disait Somerset Maugham, n'est-ce pas, demain, c'est aujourd'hui.
Mais votre livre, c'est toujours l'âme du combat, et je
l'âme
le conseille.
L'âme du combat. Il y a toujours un combat, mais il faut avoir une âme. Mettons que ce sera non plus l'âme. Toujours un combat, mais il faut avoir une âme. Mettons que ce sera non plus l'âme du combat, mais le combat pour l'âme.
Merci, Monsieur le Président.